Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h10, de retour dans les grandes gueules du sport. Votre rendez-vous le samedi, le dimanche de 9h à midi avec Christophe Cessieux, David Douillet, Denis Charvet, Marc Madio. Ce matin, dans quelques instants, toujours l'affaire Oradou Jégou. Ces deux joueurs qui sont rentrés en France cette semaine, peuvent-ils rejouer avec leur club? C'est le bras de fer des GG dans quelques instants. Ce que pensent les gens? C'est le cadet de mes soucis avant le match face à l'Italie. Kylian Mbappé a apparu froid, distant en conférence de presse. Hier soir, il a sombré comme tous ses partenaires. Le capitaine des Bleus est-il en train de se perdre? Ce sera la punchline à 10h30, 10h45. Je ne vous en dis pas plus, mais il y a une nouvelle rubrique dans cette émission et elle concerne notre ami Christophe Cessieux. Et puis 11h45, une chose vous a déplu dans cette émission. Vous n'êtes pas d'accord avec une GG, c'est très simple. Vous composez le 32-16 et vous venez lui dire directement et ce sera un battle en face à face. Inutile de passer des copains par les réseaux sociaux. Publius Sirius a dit un jour: qui plaide pour un innocent est toujours assez éloquent.
RMC, le bras de fer GG.
Oscar Jégou et Hugo Oradou, les deux joueurs du 15 de France, étaient devant la justice argentine hier. Ils sont tous les deux accusés de viol.
5 jours après les faits dont ils sont accusés, Oscar Jégou et Hugo Oradou ont été ramenés à Mendoza.
L'avocat des joueurs du 15 de France compte déposer dans les prochains jours une nouvelle demande de remise en liberté. En attendant, Oscar Jégou et Hugo Oradou sont toujours assignés à résidence.
Les rugbymen français qui sont libres, ils doivent rester en Argentine pendant que l'instruction se poursuit.
La justice argentine a autorisé Hugo Oradou et Oscar Jégou à quitter Mendoza et rallier Buenos Aires.
Oscar Jégou et Hugo Oradou sont dans l'avion en ce moment. Ils sont en train de rentrer en France 2 mois quasiment après avoir été inculpés pour viol en Argentine.
Pour le moment, les deux joueurs inculpés pour viol sont assortis à des règles strictes, comme se présenter au consulat d'Argentine en cas de convocation et de revenir à Mendoza si la justice leur demande.
Eh oui, cette affaire est encore loin d'être terminée après plus de 2 mois passés en Argentine. Oscar Jégou et Hugo Oradou, toujours inculpés de viol, sont revenus en France mercredi soir en toute discrétion. Les deux rugbymen, vous l'avez entendu, ont été autorisés à regagner leur pays sous certaines conditions et devront rester évidemment à disposition de la justice argentine. Le volet sportif dans tout ça, et c'est l'objet de notre question, les deux rugbymen peuvent-ils rejouer avec leur club? Dans le coin gauche, la team oui, représenté par Denis Charvet. Dans le coin droit, la team non. Ils sont trois: Christophe Cessieux, David Douillet, Marc Madio. Avant de débattre, on va retrouver la voix du rugby sur RMC. C'est Wilfried Templier. Bonjour Wilfried.
Salut tout le monde.
C'est Wilfried.
Alors évidemment, la question que tout le monde se pose, c'est que comptent faire les deux clubs en question, à savoir La Rochelle et Pau, dans cette histoire?
Bah alors déjà, il y a eu 2 communiqués, hein, quasi simultanément mardi en soirée à l'annonce du départ d'Argentine des joueurs autorisés la justice de ce pays, celui de la section paloise, club du deuxième ligne Hugo Oradou, qui, je cite, accueillait avec joie et soulagement le retour sur le territoire français de son joueur, qui disait qu'en collaboration avec la Fédération française de rugby et le Stade Rochelet, le club d'Oscar Jégou, le club donc s'était engagé pour le respect de la présomption d'innocence. Pau disait, c'est un pas de plus vers la reconnaissance de son innocence. Et c'était la même tonalité du côté de La Rochelle, un peu plus engagé peut-être. Il y a une phrase du communiqué Rochelet qui a un peu fait réagir, car au-delà du soulagement souligné comme à Pau, était écrit ceci, je cite à nouveau: nous attendons sereinement la tenue de la prochaine audience qui permettra de prouver leur innocence, dont nous sommes convaincus depuis les premiers jours. Donc c'est une véritable marque de soutien. Certains peuvent la trouver un peu aveugle, entre guillemets, on a envie de dire, mais c'est ce qu'on pense, c'est ce que pensent pardon les dirigeants du club maritime, qui semblent aussi avoir eu accès à des pièces du dossier qui ne sont visiblement pas connues du grand public. Reste la gestion, vous l'avez dit, du retour de ces joueurs professionnels. À Pau, Paul Lafitte, notre correspondant, nous apprenait qu'on laissait du temps à Oradou. Et à La Rochelle, on veut prendre aussi le temps de rencontrer Oscar Jégou avant d'imaginer des modalités de retour sur un terrain d'entraînement, en sachant qu'il faut sûrement qu'on appréhende là-bas le physique de ces deux hommes, mais aussi leur état, évidemment leur état psychologique après cette affaire. Et dernière chose qui a son importance, après ce retour en France autorisé par la justice, leurs avocats ont déposé une demande de non-lieu et c'est très important. Elle devrait être étudiée en milieu de semaine prochaine en Argentine et vous imaginez bien que si ce non-lieu était prononcé, ça changerait beaucoup de choses dans le regard qu'on a de cette affaire, dans la communication des clubs, même si dans tout ça, il y a la loi et il y a la morale.
Merci Wilfried Templier, tu restes avec nous pour ce débat. Ces deux rugbymen peuvent-ils rejouer dans leur club? C'est notre question ce matin dans les grandes gueules du sport. On vous a posé la question, chers auditeurs, sur le compte Twitter de compte X des grandes gueules du sport. Et pour l'instant, c'est oui à seulement 37%, non à 63%. Denis Charvet, tu es bien seul ce matin.
J'ai pas peur.
Pourquoi oui?
Mais pourquoi 8? Oui, parce que déjà dire non, ça veut dire qu'on les voit encore coupables. Et, excuse-moi, mais aujourd'hui, ils sont toujours présumés innocents. Ils sont pas jugés. Ils ont pas fait. Et puis surtout, ils sont libres puisqu'on les a, relâchés d'Argentine. C'est un signe fort. Puis après, on a parlé les clubs ont eu accès à beaucoup de documents. C'est ça, ça le grand public ne le sait pas. Donc dans ces documents-là, il y a plein de preuves qui
peut-être, mais un club, c'est pas la justice, quoi.
Oui, mais la justice, mais
non, mais enfin, je veux dire,
à partir du moment où tu les libères, qui sont libres, pourquoi tu peux pas les faire jouer? Ça veut dire que
ça, c'est une autre question. Mais
ah ben si, c'est ça.
Non, mais ça, t'as raison. Mais c'est une autre question par rapport à ce que tu disais précédemment.
Ah oui,
je sais pas parce qu'ils ont plus de preuves que la presse, on va dire.
Ah ben si, parce que
faire rejouer directement, tu fais un doigt d'honneur.
Et tu veux le refaire jouer quand alors? Explique-moi.
Attends qu'il y ait un non-lieu. Mais là, pourquoi précipiter les choses? Imagine la levée de bouclier si demain ou la semaine prochaine, Jégo et Oradou apparaissent sur les pelouses du top 14. T'imagines que toutes les bonnes consciences, toutes les associations féministes vont se jeter dessus et vont balancer
ils vont
sur
leur tout de suite.
Attendons que la justice, a priori, ça ne va pas durer 10 ans, cette histoire.
Non, mais moi, ce qui me.
Une fois.
Non, mais tu ne peux pas les mettre de côté. Moi, je suis désolé, quand tu dis non, ça veut dire que tu les mets de côté.
Mais tu ne les mets pas de côté. Attends, tu les mets de côté. Je suis désolé. Il s'est quand même passé des choses ce soir-là en Argentine.
Le sais, toi.
Attendons. Et toi, tu le sais.
Mais il y a des preuves aujourd'hui. On a des preuves aujourd'hui.
Pourquoi il ne s'est rien passé?
Non, mais.
Toutes les petits oiseaux.
Pour moi, ils sont présumés innocents aujourd'hui. Excuse-moi. Ah, ben oui.
D'accord. Ok.
Ah ben quand même, la présomption d'innocence, ça existe. C'est pour ça que d'ailleurs qu'ils ont libéré. C'est pour ça que
la présomption d'innocence existe, mais quand tu mets des mecs en prison pendant 2 mois, c'est qu'il y a quand même, il s'est passé quand même quelque chose.
D'abord,
ils ont été en prison et ensuite
un jour,
en résidence surveillée.
Attention.
Moi, je pense qu'ils sont innocents. Je suis d'accord avec toi, mais attendons un peu et attendons que la justice fasse son travail.
Je dis pas qu'ils sont innocents.
Et en plus, tu veux les mettre sur le terrain là, les mecs. Ça fait 3 mois qu'ils n'ont pas touché un ballon, ils vont exploser. Laisse-les rentrer à l'intérieur du club, se réentraîner et ensuite tu les mettras sur le banc de la scène.
C'est si bon.
Attends, t'as envie de les voir cet après-midi.
Moi, ça me gênerait pas. Ouais.
Ok, David, tu voulais intervenir après.
Parce que t'as fait.
Je pense qu'ils ont payé assez. Moi, je pense qu'ils ont payé assez. Alors maintenant, ils sont.
Je savais pas que c'était un duel.
Non, vas-y, David.
Non, mais il me semblait qu'il y avait une équipe versus une autre équipe. Je savais pas que c'était un duel. Donc vous arrêtez de vous chicorer les deux là.
Charge-moi.
Non, je vais pas te charger, mais toi qui es un ancien joueur, tu penses pas aux joueurs. Et un joueur, t'imagines, rejouer avec ça dans la tête, alors que le truc n'est pas tombé. Bon, évidemment, c'est un secret de. Enfin, je pense que, j'espère que c'est un secret, parce que moi, je pense qu'ils sont fait rouler dans la farine, mais s'ils sont en France, c'est pas pour
voilà,
rien.
Sinon, c'est ça, surtout.
La justice argentine ne les aurait jamais lâchés.
C'est ça.
Et qu'il y a un processus.
C'est pour ça que je dis oui, moi. C'est parce que les Argentins. Ah,
voilà. Mais attends. Il y a rien d'officiel, etc., etc. Le joueur qui va remettre les crampons et jouer sans que l'histoire soit terminée, sans que il soit totalement blanchi. Ce serait une erreur et même pour le club, ce serait une erreur. Même pour la qualité de jeu, ce serait une erreur. C'est une erreur pour tout. Voilà, donc c'est ridicule de
oui, alors,
vouloir
David,
les remettre
moi,
sur
je
le terrain,
une question,
etc., etc., etc.
Je te pose une question. Imagine qu'il n'y ait pas de non-lieu, que l'affaire s'éternise. Ça peut très bien s'éterniser.
Ça peut arriver, bien sûr.
On va dire, allez.
Il y a des pièces supplémentaires. La justice a besoin
pièces,
de plus de temps.
Ça fait 6 mois, non. Comment on fait? Comment on les gère, les joueurs? Explique-moi, parce que là, moi, je veux bien. Ça ne veut pas dire qu'ils sont coupables. Ça veut dire qu'ils sont encore présumés innocents, mais que le temps va faire que, ils ne seront pas jugés.
Bah, tu sais, dans d'autres endroits, je vais te répondre. Dans d'autres endroits et dans d'autres lieux que vous connaissez autant que moi, le monde politique, quand un mec est accusé, il quitte ses fonctions. Enfin, en règle générale.
En règle générale.
Ouais,
la mise en examen vaut pas démission.
En règle générale, tu te mets de côté. Tu fais ce que. Enfin, la justice est là. Elle est là pour faire son travail et tu te remets dans les clous si tout va bien, voilà, et ça me semble un peu logique, tu vois. Tu peux pas, t'es exposé, t'es un personnage public, t'es un joueur, t'es sur le terrain, il y a aussi une équipe, il y a l'âme d'une équipe. Comment peut être perçue l'équipe, comment les sponsors de l'équipe, les partenaires. Enfin, il y a tout un environnement, tu vois. Oui. Si t'es encore dans une procédure où tu es accusé de viol, toi, c'est lourd, quoi, tu vois. Et qu'on ne connaît pas le bout du résultat. Moi, je dis attention, c'est une erreur de faire rejouer quelqu'un dans ces conditions, quoi.
Voilà. Marc Madiot.
Pour moi, on est devant un schéma traditionnel. On n'est pas égaux devant la présomption d'innocence. Quand on est un quidam et qu'on n'est pas connu ou reconnu dans la société, la présomption d'innocence s'applique totalement. Si vous êtes employé d'usine, que vous êtes dans la même situation que ces deux rugbyman, vous êtes employé d'usine, vous êtes relâché de là où vous étiez et vous rentrez au pays et vous pouvez sans difficulté reprendre votre travail. Si vous êtes connu ou reconnu comme le sont ces deux rugbyman, c'est impossible le temps de l'instruction et de la procédure.
C'est quand tu tues une petite fille en moto, t'es relâché, quoi. Voilà.
Ben, t'es relâché parce que t'es pas connu et parce que t'es pas.
Voilà. Alors qu'il y a une gamine qui est morte parce que t'as fait
c'est un problème de la présomption d'innocence. Oui, c'est un problème. Mais on est dans une situation où les deux pauvres joueurs, si tant est qu'ils soient innocents.
Ouais, si tant est qu'ils soient pauvres.
Tu veux dire que plus t'es riche et plus t'es connu. Plus t'es malheureux, c'est ça en
gros? Non, t'es pas plus t'es malheureux, mais tu n'es pas dans la même situation d'égalité devant la présomption d'innocence. C'est une réalité.
Ok, oui, donc avec cette réalité,
avec cette réalité, pour moi, les deux joueurs réintègrent le club, s'entraînent avec le club, mais ne peuvent pas apparaître sur le terrain en jeu.
Ça veut dire qu'ils attendent leur jugement.
Et ils attendent le jugement
des politiques. Parce que ce sont des sportifs de haut niveau, comme des politiques, comme des gens qui ont pignon sur rue et qui ont valeur d'exemple. Et quand,
des gens c'est même pas qu'une histoire de valeur d'exemple. Il y a une image. Et l'image de ces deux sportifs perturbe l'image du club. Mais donc, ce qui est vrai, on est dans une difficulté.
L'image du Marc, c'est qu'en fait, le problème, c'est le problème du doute.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui. Non, c'est pas une histoire de doute.
Non, mais si, dans le regard des gens aujourd'hui, on aura toujours le doute tant qu'ils sont pas relaxés, je suis désolé. Tant qu'ils ont.
Oui, et même après. Quand tu écoutes je sais pas, mais vous avez écouté le témoignage de cette dame-là.
La plaignante, oui.
Ouais, il y a.
C'est version contre version.
Il en restera toujours quelque chose. Mais oui, voilà, tu dis à la fabule. Qu'est-ce que t'en sais, Denis?
Je peux pas te laisser dire ça.
Qu'est-ce que t'en sais, Denis? Est-ce que tu as lu les SMS échangés entre elle et sa copine? Oui, il y a des choses qui semblent étonnantes, mais il y a aussi des choses.
Il y aura la lumière qui sera faite sur
mon rivier, quand même.
Non, il y a des choses qu'on ne saura jamais, Denis. Ce qui s'est passé dans cette chambre, il y a des choses qu'on ne saura jamais. Il y aura toujours une zone grise. Il y aura toujours. Et donc, on peut dire ils sont présumés innocents. Oui, c'est la loi. On doit le faire. Mais
Strauss-Kahn,
on peut
entendre aussi l'autre côté
de la voix de la plaignante. Et donc, s'imaginer qu'il y a peut-être eu des choses. Voilà. Oui. Alors, la justice dira viol, pas viol, non-lieu. Il n'y aura pas viol. Mais il y aura toujours une zone grise. On ne pourra pas trancher. Parce qu'on n'aura pas été dans cette chambre. Et voilà. Et ce qui s'est passé dans cette chambre, personne ne le saura jamais. Même si la justice tranche. Et donc, comme tu dis, Christophe, il restera peut-être toujours quelque chose, un petit doute. Et c'est dommage, peut-être. Mais il y a quelque chose qu'on pourra jamais savoir.
Et c'est toujours la difficulté, évidemment, de ces affaires. On n'en parle pas que dans le sport, malheureusement. Nous avons un invité avec nous, le président du syndicat Proval, le président du syndicat des joueurs. Donc, c'est Malik Hamadash, qui est lui-même joueur, pilier d'Agen. Bonjour, Malik.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous dans les grandes gueules du sport.
C'est mon barbarian, Malik.
Merci. Eh oui,
bien sûr, vous connaissez bien. Malik, quelle est la position du syndicat des joueurs, censé évidemment défendre les joueurs? Comment vous positionnez là-dessus? Est-ce que ces deux joueurs peuvent rejouer dans leur club?
Moi, je pense que c'est quelque chose qui doit se faire en plusieurs étapes. Déjà, c'est déjà un retour en famille et le temps de, j'ai envie de dire, de digérer cette histoire. Aujourd'hui, comme on l'a dit, on ne peut pas être juge à la place des juges. On est tous sujets à interprétation. On attend un jugement. Et déjà qu'il y a eu, je pense, un retour des deux joueurs prouve qu'il y a quand même une avancée dans l'enquête. Et derrière ça, comme je l'ai entendu pendant 3 minutes, ce qu'il se disait, oui, il faut qu'il, pour moi, reprenne une vie normale. Et en attendant ce jugement-là, il faut, je pense, rester très, neutre et qu'on doit vraiment attendre le jugement.
Il y a évidemment les clubs, hein, les clubs concernés, c'est Pau et La Rochelle qui sont en train de choyer en tout cas leurs deux joueurs, de les accueillir de nouveau dans le club. Wilfried Templier nous le disait, il y aura une aide psychologique pour ces deux joueurs, savoir comment ils vont, au-delà des tests physiques sportifs, ça c'est pour la reprise sur les terrains. Est-ce que vous, là, le syndicat Proval, est-ce que vous allez vous aussi accompagner ces joueurs ou vous attendez aussi, vous mettez un peu de distance avant que la justice ne passe?
Voilà, aujourd'hui, nous, on préfère garder toujours, on a toujours cette protection du joueur, que ce soit mental ou physique ou juridique, mais comme on le dit, on ne veut pas être juge à la place du juge et on ne veut pas être sujet à l'interprétation. Mais par contre, ce qu'il faut faire, c'est toujours être quand même sur cette présomption d'innocence qui est importante et encore plus avec deux gamins de 20 ans. Et donc il faut qu'on soit mesuré sur nos propos, mesuré sur ce qu'on entend et sur ce qu'on lit. Et encore une fois, nous ne serons pas juges à la place du juge. On sera là à leur apporter un soutien en termes de syndicat, mais on sera obligé d'attendre un certain jugement pour ne pas pouvoir... s'il s'avérait qu'ils sont coupables, nous ne pourrons pas aujourd'hui cautionner si ça a été réellement fait. Mais aujourd'hui, si ça n'a pas été fait, nous serons obligés d'être à leur soutien à 300%.
Denis Charvet. Justement, en parlant de soutien, Malik, est-ce que tu les as eus pendant ces deux mois? Est-ce que tu as suivi l'évolution?
Oui.
Comment ils sont psychologiquement aujourd'hui?
Ben moi, j'ai eu surtout les deux présidents, que ce soit Vincent Merlin ou Bernard Contenot. Un que je connais très bien parce que j'ai joué 5 ans à la section paloise. Et surtout que leur état psychologique était quand même assez compliqué. Ils voulaient vraiment rentrer, retrouver leur famille, retrouver leurs repères, retrouver, on va dire, une vie un peu plus normale et un peu moins, j'ai envie de dire, compliquée comme celle qu'il a été pendant à Mendoza ou à Buenos Aires. Leur unique envie, c'est de revenir. Après, il y aura, je pense, un certain traumatisme et un certain temps. À qu'ils puissent revenir à la normale. J'espère que ça ira mieux pour eux sur ce domaine-là.
Bon, votre position est claire, Malik Hamadash, le président du syndicat Proval. Vous êtes également joueur, évidemment, dans ce syndicat. Vous êtes pilier d'Agen. Je le rappelle, évidemment, on parlait des thés noirs. Hein, on en discutait dans les grandes gueules du sport la semaine passée, parce qu'on parle évidemment de ces troisièmes mi-temps, de cette arrivée de la cocaïne, de l'alcool. Aussi, cette histoire avec les deux rugbyman. Christophe, tu voulais rebondir. Tu voulais profiter de la présence de Malik.
Justement, je voulais avoir l'avis de Malik Hamadash sur les mesures qui semblent être qui vont être prises sans doute par certains clubs. C'est le cas notamment à l'UBB. Il va y avoir des tests anti-cocaïne qui vont être pratiqués par les clubs. On parle aussi beaucoup de la fameuse culture troisième mi-temps. Est-ce qu'il faut tout remettre à plat, Malik? Est-ce qu'il faut surveiller les joueurs de rugby, notamment les plus jeunes, pour éviter les excès qui ont pu apparaître cet été, par exemple?
Mais là, je vais bien rebondir sur le mot que tu as dit, qui est important, c'est mesurer ses excès, déjà. Ça c'est une première, un premier travail qui est très important à faire, parce qu'aujourd'hui, ce qui est reproché, c'est l'excès. Il faut remettre faut pas tout remettre en cause. La troisième mi-temps, c'est peut-être l'une des meilleures, celle qui aujourd'hui qui concrétise les deux premières. On fait 80 minutes de bataille, 2 fois 40 minutes, pour pouvoir partager un verre fraternel sur la troisième. Ce qui met un peu, j'ai envie de dire, d'humain et de convivialité dans ce rugby. Le remettre en cause, non, mais remettre en cause l'excès, oui. Et ça va être un travail plutôt à faire. Il va falloir cadrer, déjà, juridiquement, par rapport à des sanctions ou pas à prendre sur cet effet qui est quand même plus sociétal que rugbystique, parce qu'aujourd'hui, le rugby fait partie de la société, il n'est pas en dehors de la société. Il faut remettre ça dans son contexte aussi, parce qu'aujourd'hui, on le voit tous qu'en dehors, la société a augmenté ses excès. Donc, comment nous, on va réussir à les contrôler, sachant où est notre champ d'action? Et il va falloir être, je pense, très minutieux, savoir le cadre juridique qu'on va pouvoir y mettre. Ça va être très important aussi. Et encore une fois, il faut vraiment pas tout remettre en cause, parce que c'est pas des actes isolés qui puissent remettre en cause toute une institution qui, à mon sens, marche très bien.
Merci Malik Hamadage d'avoir été avec nous ce matin dans les grandes gueules du sport, président du syndicat Proval. Merci d'être venu clarifier votre position, notamment sur les deux joueurs de rugby, mais également sur l'un des thèmes de cette rentrée avec les états généraux du rugby français, et notamment sur ces sujets de cocaïne. 10h29, on se retrouve dans quelques instants pour la suite des grandes gueules du sport. On est resté, hein, peuvent-ils rejouer dans leur club à 63%, 37% pour oui, 63% pour non.
Match nul.
Kylian Mbappé est-il en train de se perdre? C'est notre débat, la punchline des GG. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
De retour dans les grandes gueules du sport, il est 10h34. Merci de votre fidélité. Vous le savez, les GG du sport, c'est votre émission le samedi, le dimanche de 9h. C'est 9h désormais pour cette 13e saison. 9h à midi, toujours avec Christophe Cessieux, David Douillet, Denis Charvet, Marc Madiot. Dans 10 minutes, restez bien avec nous. Nouvelle séquence dans cette émission. Juste déjà peut-être le bed. La musique de cette séquence. Ah, elle vous fait penser à quoi? Au Napa Caro, à la baguette,
Amélie Poulain.
Évidemment.
On accueille Drake dans l'émission.
Elle vous fait penser à...
Christophe Cessieux vous prépare quelque chose. Oui, dans 10 minutes.
Temps, c'est sûr qu'on en pense à Christophe.
Mais et je suis le plus jeune ici, je vous signale.
À cette table. Et ça fait pas arriver souvent.
Marc a 4 ans de plus que moi et toi, t'as 3 ans de plus que moi. Il y a que David éventuellement.
Il
y a que David qui est un peu plus jeune et qui fait beaucoup plus vieux.
Restez bien avec nous, c'est dans 10 minutes.
Tous les vieux disent ça. C'est moi le plus jeune.
Nouvelle séquence avec Christophe Cessieux. 4 matchs sans marquer en bleu, une éternité pour un joueur comme Kylian Mbappé. Après avoir raté son Euro, c'est lui qui le dit, le capitaine de l'équipe de France, a raté son match hier. Avant la rencontre, il s'est présenté en conférence de presse et à la question sur les critiques, la star des Bleus n'a pas fait dans le détail. C'est la punchline des GG.
RMC, la punchline GG.
Moi, je suis arrivé à un stade de ma vie et de ma carrière où... je constate plus, je viens, je joue. Ce que pensent les gens, je pense que ça, c'est le cadet de mes soucis. Nous, on essaye toujours de donner le meilleur d'entre nous, par respect et par admiration qu'on a pour ce maillot et ce logo. Après, vous savez, dans le foot, on ne peut pas contenter tout le monde. Maintenant, le plus important, c'est si nous, on est conscient de ce qu'on fait de bien ou pas et qu'on ne vive pas dans une planète à part. Le reste, on peut laisser les discussions parce qu'il y en aura toujours. Donc à partir de ce moment-là, nous on est concentrés sur jouer et s'améliorer tous les jours.
Vous avez entendu cette phrase qui fait beaucoup réagir dans le studio.
Ah oui.
Kylian Mbappé est-il en train de se perdre? Oui ou non, Denis Charvet?
Totalement.
Marc Madiot?
Totalement.
Christophe Cessieux?
Oh oui, mais c'est pas nouveau.
David Douillet?
Je vais être plus mesuré.
Oh, ok,
il est pas obligé quand même.
Mais non, mais il a raison.
C'est un politique.
Oui, mais non,
politique,
pas forcément. Voilà. On peut penser, moi aussi, je suis plus mesuré que vous sur ce dossier.
Dès que je suis pas d'accord, je suis politique. C'est invraisemblable.
Mais c'est ça. Et dès que tu es d'accord avec eux,
tu n'importe voilà, quoi.
Exactement. Dès que tu es d'accord avec nous, tu es un mec super, enfin.
Alors, si je suis d'accord, je suis de gauche. Et dès que je suis pas d'accord, je suis politique.
Tu vas défendre Kiki.
Totalement, il est en train de se perdre. Denis Charvet. Je sais que tu voulais en parler dès 9h.
C'est vrai, je crois que c'est Christophe qui l'a dit. C'est pas d'aujourd'hui, quoi. Mais là c'est hallucinant parce que le mec, il est sans retenue, il est sans rien, sans filtre. C'est-à-dire que lui, il parle que de lui. Il rapporte tout à lui, tout. Alors qu'il a, c'est un mec, un garçon que j'aimais beaucoup parce que tout le monde disait toujours que c'était le gendre idéal. Que chaque fois en conférence, il était parfait parce que il employait le bon mot, il parlait bien français. Enfin, tu vois, on a fait un tableau de lui extraordinaire. Ce qui était le cas. Hein. Et là, on ne trouve pas le même mec, quoi. C'est-à-dire que c'est pas Mbappé. C'est un mec qui, tout d'un coup, on parle de grosse tête, mais c'est même pas la grosse tête, là. Je pense qu'il est ailleurs. Il est ailleurs. D'ailleurs, il n'est pas sur le terrain, il n'est pas en dehors, il est nulle part. Je pense que ce mec, ce qu'il a vécu l'année dernière depuis deux ans au PSG, ça l'a traumatisé. Et aujourd'hui, c'est plus le Mbappé. Donc, du coup, eh ben, il est chafouin, il en veut aux critiques, il en veut aux journalistes, il en veut à tout le monde. Non, il faut qu'il se reprenne parce que là il est en train de jouer un mauvais rôle qui n'est pas le sien, en fait. Son rôle à lui, c'est d'être sur le terrain. Il va être capitaine de l'équipe de France, mais soit joyeux, soit positif, soit pas négatif. Il vient en conférence de presse, il est négatif par que de lui. Il nous parle, comme le disait Marc, de son intronisation au Real. Mais on s'en fout de ça. Parle-nous de jeu, parle-nous de sois heureux. Et puis là, le problème, c'est que comme il n'est pas heureux et joyeux, mais sur le terrain, ils sont pas joyeux, ils sont pas heureux. Et lui, il est pas heureux. Mais moi, il m'inquiète. Il m'inquiète parce qu'en plus de cette sortie médiatique, il a plus le niveau. Le problème, c'est qu'hier, il est transparent. Et là, je ne sais pas quoi répondre même.
Marc Madiot.
Bah pour moi, ce qui reste sur cet état d'esprit, ce cheminement, c'est le début de la fin. C'est le début de la fin de sa carrière. Il faut qu'il retrouve sa spontanéité, qu'il se recentre sur son métier de footballeur et rien que sur son métier de footballeur. Et c'est là où son entourage, qui l'a construit et accompagné
toujours
d'une certaine manière, doit faire un énorme travail. Tout l'entourage doit faire un énorme travail pour retrouver les bases, tout simplement.
Il a 25 ans, Marc. Tu parles de fin de carrière,
oui,
déjà.
Mais oui, mais on a l'impression qu'il est vieux, justement, dans son raisonnement aujourd'hui.
Ah, parce qu'il a débuté tellement jeune.
Oui.
On a l'impression de l'avoir toujours connu.
C'est pas le problème de son âge, c'est son cheminement du moment qui fait qu'aujourd'hui, on est dans une situation où s'il reste sur ce mode de fonctionnement et ce mode de raisonnement, sa carrière est terminée.
Et puis il parle de Barcola. Moi, ce qui m'a choqué, c'est quand même de parler de Barcola.
Sa carrière est terminée, entendons-nous. Hein. Mbappé qu'on supposait et qu'on imaginait.
Très haut niveau, c'est ce que tu veux nous dire.
Non, mais quand il dit de Barcola, c'est un très bon garçon. C'est-à-dire qu'il se croit au-dessus de tout, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est le boss, quoi. Tu vois, c'est le mec qui il se permet de dire Barcola, t'es arrivé au même âge, on ne parlait pas de toi, laisse-le vivre. Tu vois ce que je veux dire? Il dit ouais, mais s'il est pas, vous allez voir la première sortie, s'il est pas bon, vous allez le tomber dessus. Non mais t'as pas à le défendre.
Si on peut pas dire tout et son contraire, c'est le capitaine de l'équipe de France qui protège les ouailles quand même, David.
C'est pas son rôle.
Moi je pense qu'il est, il a l'impression qu'il est vieux, mais en réalité il est jeune. Il est encore jeune lorsqu'il s'exprime. Et je pense qu'il est extrêmement maladroit. Ça c'est la première chose. La deuxième c'est que vous êtes en train de constater le défaut de sa qualité et le défaut de sa qualité
oui, déjà jamais vu avant.
Sa qualité c'est quoi? Sa qualité c'est un attaquant, c'est un numéro 10, il marque des buts, on lui passe la balle, panf, il marque un but, voilà. Donc en fait c'est un poste tout à fait spécifique dans une équipe. C'est un poste assez, je dirais entre guillemets, solitaire. C'est pas le poste où tu passes le plus de ballons aux autres. Voilà, tu dois recevoir les ballons et ton rôle, c'est de le mettre au fond. Bon, donc il est déjà depuis tout jeune, très jeune, dans ce format psychologique, un format psychologique où il est plus solitaire que tous les autres postes dans son truc. Et je trouve que ça a été sans doute exacerbé son profil psy, qui est une qualité de départ, qui lui a permis de marquer énormément de buts avec énormément de talent. Tout ça, est venu un peu plus à la lumière lorsque c'est devenu un des meilleurs joueurs, si ce n'est le meilleur joueur au monde. Et là, c'est là où a craquelé autour de lui, enfermé peut-être dans une espèce de tour d'ivoire liée à sa popularité, etc., a craquelé tous les petits garde-fous, toutes les personnes qui le faisaient retomber un peu sur terre, et puis c'est un peu envolé vers ce qu'il est au plus profond de lui, quoi. Voilà. Et c'est simplement de la maladresse et de la jeunesse. Et je trouve que vous êtes un peu dur avec lui.
Ouais, non, okay. Pas dur.
Vous êtes un peu dur avec lui.
Non, parce que s'il marquait des buts, s'il remarquait des buts, il n'y aurait pas ce discours-là.
Mais il plaide la maladresse, Christophe.
Non, mais il est intelligent. C'est quelqu'un d'intelligent. Vous ne pouvez pas dire que.
Ah non, mais j'avais dit le contraire.
Il est intelligent. Le joueur est intelligent. C'est un athlète de haut niveau, il est intelligent. Et donc, forcément, il va remarquer ça. Et s'il ne le remarque pas, c'est qu'il. Et Marc aura raison. C'est que ce sera la fin de le. Il aura atteint le sommet de sa courbe de Peters.
Christophe.
Mais comme il est intelligent, il se remettra en question.
Moi, je pense, et je le disais ici il y a déjà plusieurs mois, je pense que ça a été une erreur de nommer Kylian Mbappé capitaine de l'équipe de France. C'est un soliste, c'est un individualiste, c'est un garçon qui dit exactement ce qu'il pense au moment où il le pense. Et là, il a plus de filtre. Alors que pourtant, il y a des agences de communication qui travaillent au quotidien pour essayer de lui donner une image merveilleuse.
Au-delà
mais lui,
du filtre, il est plus très frais, quoi.
Et en le nommant capitaine. T'as perdu Griezmann en plus.
Oui, en plus t'as perdu Griezmann qui a été très déçu. Bon, il avait quand même fait une bonne Coupe du Monde, mais derrière effectivement tu l'as perdu. Non, mais Kylian, il est pas fait pour être capitaine. Un capitaine, ça doit être quelqu'un d'assez lisse, un Lloris qui va pas faire de vagues, qui va toujours aller dans le sens du sélectionneur, dans le sens Deschamps à l'époque. Tu as raison. Exactement.
On peut espérer d'autres profils.
C'est chiant les capitaines comme ça, mais c'est souvent le cas, surtout aujourd'hui lorsque les communications sont vraiment verrouillées. Et Kylian, il est pas fait pour ça.
Non, mais non seulement il est pas fait pour ça, mais ça lui a mené un poids. supplémentaire qu'il n'avait pas besoin.
Non seulement il n'est pas fait pour ça, mais en plus chaque fois qu'il va en équipe de France, et là peut-être on lui pose des questions d'abord sur sa situation personnelle. Donc l'année dernière c'était pour savoir s'il allait quitter le PSG. Là maintenant on va lui poser des questions sur le Real Madrid, ou alors on lui dit t'as raté ton euro. Donc voilà, c'est pas à lui d'apporter ses réponses. Lui, il faut qu'il reste dans l'ombre. Il faut qu'il reste dans l'ombre. Je sais qu'il aime pas trop l'ombre, hein. Il aime bien le soleil. Mais si c'est pour faire ce genre de déclaration, il faut lui enlever le brassard de capitaine.
La raison, c'est que c'est un vrai soliste. C'est-à-dire, c'est comme tous ces attaquants. Ronaldo, tu vois, Cristiano Ronaldo, tout ça. Il y a quand même un narcissisme exacerbé. Donc, si tu veux.
Oui, mais c'est ce qui fait la qualité du joueur.
Oui, mais la qualité, mais pas en tant que capitaine. C'est là où je rejoins Christophe.
Mais je suis d'accord avec vous.
Et là, je suis vraiment d'accord, ce que tu dis, Christophe. C'est exactement le vrai problème. Ça a été une vraie maladresse de la part de Deschamps de l'avoir nommé capitaine.
Ok, le mot de la fin.
Pour moi, le mot de la fin, c'est tout simple. Il faut qu'il redevienne footballeur.
Voilà. Tu as dit ce qu'il fallait dire.
Un footballeur pur et simple et dur. Tout simplement.
Allez, 10h44, on passe à autre chose. Les copains, c'est une nouvelle rubrique dans les grandes gueules du sport. Une rubrique signée Christophe Cessieux. Alors, quelle est cette rubrique? Là, il faut rester avec nous, les copains. Je ne vais pas craquer comme ça, de mettre du bol de sangria. Vous restez avec nous dans quelques secondes. Voilà, Christophe, tous les samedis à 10h45, il a quelque chose à vous dire. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi.
Bon, vous arrêtez de vous chicorer les deux, là.
Les grandes gueules du sport.
Sans déconner, mais dès que je suis pas d'accord. Dès que je suis pas d'accord, je suis un politique, mais c'est invraisemblable cette histoire, n'importe quoi.
Jean-Christophe Drouet.
Avec l'excellent David Douillet, évidemment, de retour dans les grandes gueules du sport, 10h48, votre émission jusqu'à midi, donc Christophe Cessieux, Denis Charvet, Marc Madiot, et notre homme de gauche, David Douillet.
C'est ça.
À partir de 11h, on va parler d'Antoine Dupont, les copains. Est-ce qu'il serait pas en train de s'éparpiller, notre ami Antoine?
Il fait une fixette sur Antoine Dupont.
Je comprends pas là.
Alors je veux faire du rugby à 7, je veux jouer au centre, je veux remplacer JC dans les grandes gueules du sport, et pourquoi pas le 20h. Ouais. Il veut tout faire, Antoine. Il veut tout faire.
Moi, j'aimerais pas le représenter Bartoli Time à ta place, il paraît.
Oui.
C'est quoi, j'aimerais
la
voir
place est libre. Au PSG. Ah ben non, c'est Benoît Boutron, les copains.
Je suis sûr qu'il vient au PSG, il marque des buts sur but.
Oui. Bon. Mais pourquoi pas, hein? Mais il a envie de tout faire. Bon, on en parle à 11h. N'hésitez pas à vous poser le 32-16. Nouvelle séquence dans cette émission. Nouveauté! Parce qu'il aura 60 ans le 20 avril prochain.
Arrête un peu avec ça! C'est
une fête au moins.
Il aura 60 ans le 20 avril prochain. Oui, c'est l'instant Cessieux. La crise de la soixantaine.
T'as l'impression que je suis en crise là, vraiment.
Non, c'est possible. On vérifiera tout ça tous les samedis à 10h45.
Une crise de foi, ouais.
Christophe Cessieux viendra piquer sa crise ou saluer une performance. À vous de me dire ensuite, les GG, si vous pensez que c'est dû à la crise de la soixantaine ou s'il a raison, tout simplement. Christophe, tu nous proposes quoi aujourd'hui?
Alors, d'abord, je n'ai pas de crise de la soixantaine.
On verra, qu'on se le dise.
Et tout d'abord, je suis qu'un cas et je ne suis pas sexa, à la différence de Denis Charvet, de Marc Madiot et pas encore de David Douillet ni de toi, parce que toi, t'es un petit jeune. D'ailleurs, je vais me tourner vers mes aînés pour leur poser la question de savoir est-ce que vous avez regardé, est-ce que vous avez suivi, est-ce que vous avez été émerveillé par les Jeux paralympiques, Denis? Je te pose la question. Est-ce que toi, tu as regardé?
Je suis allé à Roland Garros. Je suis allé voir deux matchs et c'était extrêmement joyeux.
T'es allé voir Yannick?
Oui. Enfin, d'accord. Yannick, j'ai allé voir Stéphane Houdet, exactement, avec en simple et en double avec son partenaire. Et non, mais l'ambiance était absolument incroyable, incroyable. C'est un peu, j'ai retrouvé l'ambiance que j'avais retrouvée pour le rugby à 7 pendant les JO. Mais c'est vrai que mon regard a un peu changé.
D'accord. Ton regard a un peu changé. Marc, est-ce que tu as suivi les parents? Est-ce que tu as regardé à la télé?
Sur le terrain, mais j'ai regardé à la télé et j'ai été bluffé par certaines performances ou comportements de sportifs paras.
T'as profité de tes vacances pour regarder les épreuves?
Moi, je suis resté sur le mode JO qu'on.
T'es resté sur la continuité.
Je suis resté sur la continuité parce que en fait, quand les JO s'arrêtent, il y a un trou et un manque. C'est un peu comme le lendemain de France.
Pareil.
Et là, il y avait cette possibilité de rebondir avec les parrains. Et je n'ai pas suivi avec tout à fait la même attention parce qu'on connaît moins les sportifs parrains. Mais j'ai regardé avec attention. Et ce qui m'a bluffé, c'est au-delà du résultat, c'est la capacité que peuvent avoir les paras accomplir des performances sportives. J'ai en mémoire.
Et de grandes performances parfois.
Le saut en hauteur d'un gars qui avait plus qu'une jambe.
À cloche-pied, qui saute, qui
passe. Se déploie pour passer au-dessus de la barre, c'est extraordinaire. Et je pourrais citer d'autres exemples encore.
Alors, c'est vrai que moi, je dois vous dire que après le Tour et les Jeux Olympiques, j'ai pas été très assidu sur les Jeux Paras, tout au moins pour la première partie, trop occupé à jouer au ping-pong comme Félix ou à boire l'apéro comme Denis. Je me disais qu'après avoir goûté au caviar du Tour et des Jeux Olympiques, j'allais certainement pas connaître autant d'émotions avec les paras. Pas que je veuille du tout dévaloriser leur perf, mais c'est vrai qu'à part quelques têtes d'affiche, on ne les connaît pas vraiment, ces garçons et ces filles. C'est difficile de s'identifier à ces champions qui ont tous connu le malheur avant de renaître grâce au sport. Et on le sait, le malheur, on n'aime pas forcément le regarder droit dans les yeux. Et puis, c'est pas facile non plus, il faut bien le dire, de s'y reconnaître avec ces catégories dont on sait vraiment pas ce qu'elles signifient, les B1, H5, autre T2, on a l'impression de jouer à la bataille navale, mais ces champions-là, s'ils ont été touchés dans leur chair, ils n'ont jamais coulé, et leurs histoires, peut-être plus que leurs exploits, m'ont touché au point que, malgré mes vacances, et ben voilà, je me suis installé petit à petit devant ma télé ou derrière mon ordi à l'écoute de la radio digitale qu'RMC a consacrée aux Jeux Paralympiques pour suivre les exploits des champions que Teddy Riner a qualifié de super-héros, ce qui a provoqué, vous l'avez peut-être entendu, une petite polémique. J'ai pas compris cette polémique, parce que oui, pour moi, ces champions sont des super-héros, peut-être même plus que nos athlètes valides, qui bénéficient pour certains de la médiatisation, qui sont plus choyés que les paralympiques. Alors évidemment que d'aller chercher une médaille olympique, c'est extraordinaire, mais aller chercher une médaille chez les paras, c'est encore plus dingue, parce qu'avant de devenir ou redevenir des sportifs, ils ont d'abord dû vaincre leur handicap, leur douleur et souvent leur malheur. Et moi, je voulais leur tirer un grand coup de chapeau. Oui, j'ai pas cru beaucoup en vous avant la compète, mais à coup de pas, je veux bien m'auto-flageller, mais comme il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis, j'ai retourné un reste. Et je dois dire, Denis, que j'ai quand même à mettre avec toi en matière de retourneur de veste. Et donc, je me suis passionné pour leurs exploits. Je ne suis pas le seul, d'ailleurs, parce que les Parisiens, notamment ceux qui avaient boudé les compétitions, vous savez, on va laisser ça à la plèbe, nous, on va partir en vacances. Tous les mecs, ils ont appliqué comme des dingues à la sortie de leurs vacances, ils sont jetés sur les places et ils sont allés voir les paras. Et bah, du coup, ça a fait une ambiance extraordinaire. Et moi, je suis un peu triste parce que demain soir, c'est la fin de la parenthèse. Demain, c'est la fin de la parenthèse olympique et paralympique. Et ça va bien nous manquer dans les jours qui viennent, parce que franchement, ça a été un moment magique. Et un grand coup de chapeau aux athlètes paralympiques, olympiques et aux organisateurs également.
Le mea culpa de Christophe Cessieux. Est-ce que c'est la crise de la soixantaine ou pas, ce mea culpa? Oui. On le reconnaît plus, Christophe. Crise de la soixantaine ou pas, Denis Charvet?
Oui.
Oui, c'est la crise de la soixantaine, oui. Ça? Oui, c'est symptomatique?
Non, je dirais pas ça.
Tu dirais pas, non, mais, ça. David Douillet?
Non, mais ça adoucit trop, là.
Non,
non, c'est justifié, il a raison.
Pas ça non plus.
Ok. Non, il a parfaitement résumé l'approche qu'on pouvait avoir par rapport au para. Et non, c'est...
Et surtout l'émotion que ça a suscité, en fait. Comme tu dis, c'est pas des sportifs qu'on connaît, qu'on ne s'identifie pas, ces sportifs. Mais je vois la fille qui a gagné la Boggia. Boggia.
Oui, la Boggia.
La Boggia. C'était extraordinaire, l'émotion. Enfin, je sais pas si vous l'avez vu.
Ouais.
Moi, j'ai des frissons d'en parler, tu vois. C'est le bonheur. C'était, on l'a partagé, ça. C'est
Aurélie Aubert, ouais.
C'est incroyable. Donc voilà, c'est ça le sport, c'est avoir des émotions. Un peu comme France-Italie hier soir, tu vois.
Justement, quand tu quittes les Jeux Olympiques et les paras pour te retrouver avec cette purge d'équipe de France, franchement, ça fait mal. Hein. Ça fait mal.
Là, on retrouve Christophe.
Ah oui, voilà.
Ok,
voilà.
Les copains. Bon, sachez que, évidemment, RMC est radio officielle des Jeux Paralympiques. Et tous les jours, de 10h à 22h, vous allez sur la radio digitale 100% bleu pour suivre toutes les performances de nos athlètes tricolores.
RMC, radio officielle des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.
Et sachez qu'à 11h20, il y aura la finale de Rémi Boulet, la finale du para canoë. C'est sur 200 mètres en catégorie KL1. Donc voilà, pour Rémi Boulet, restez bien avec nous. On va vivre ça en direct avec au commentaire Arnaud Valadon dans les grandes gueules du sport. On revient dans quelques instants pour parler d'Antoine Dupont. Est-ce qu'il est en train de s'éparpiller? Oui ou non? Et puis si quelque chose vous a déplu dans cette émission, c'est 11h45, vous composez le 32-16 et vous venez affronter une GG. Allez, à tout de suite.
RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport.